Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois François Drouard, médecin de l'Estac, le club de Troyes en Ligue 1. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son quotidien, ses différentes expériences en France et à l'étranger. Nous sommes également revenus sur la prévention et la gestion des blessures, sur le travail avec les jeunes en centre de formation, la médecine de bien-être, la gestion du ramadan, le cas des infiltrations, le glaçage quasi systématique des blessures et bien d'autres sujets. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec François Drouard. Bonjour François Drouard et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Johan et merci de m'avoir invité.
Alors dans ce podcast François, on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué? Alors ça peut être par un scénario, un résultat, une émotion particulière, ça peut être enfant, adolescent, adulte, ça peut être un match qui vous concerne directement ou pas du tout indirectement, vu à la télévision, au stade, enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. L'essentiel c'est que c'est un match auquel vous repensez de temps en temps votre Madeleine de Proust footballistique.
Alors, c'est, je pourrais dire, tellement d'événements parce que le foot est vecteur d'émotions et donc on en vit tellement dans ce métier et puis dans cette activité qu'on vit. J'en ai plein qui me viennent en tête, bien évidemment. Je pourrais toujours citer les faciles, les victoires de Coupe du Monde de la France, le doublé que j'ai pu vivre de l'intérieur avec le LOSC, Coupe Championnat. C'est des choses qui sont extraordinaires, mais s'il y a vraiment un élément que je mets devant tout, c'est parce qu'il a guidé un petit peu toute ma passion pour le football. C'est la Coupe du Monde 1982 en Espagne, avec cette célèbre demi-finale de Séville-France-Allemagne. Parce que c'est, je pense, mon souvenir le plus lointain, premier souvenir, on va dire, footballistique, même sportif. J'avais à l'époque 8 ou 9 ans et ça m'a énormément marqué. Je me souviens qu'à l'époque, Monaco était champion de France, si j'ai bonne mémoire, et je commençais à m'intéresser un petit peu au football et j'ai vécu cette Coupe du Monde d'une manière complètement passionnelle. Et c'est, je pense, ce qui m'a un petit peu donné cette passion pour le sport et le foot. Donc, je dirais cet événement-là. Ouais.
C'est marrant parce que beaucoup de mes invités, quand je leur demande leurs souvenirs, beaucoup retournent à l'enfance quand même. C'est évidemment là où on découvre beaucoup de choses, que les émotions sont peut-être un peu décuplées. Je trouve que ça serait intéressant à analyser le fait que finalement, tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup d'invités retournent finalement à l'enfance, même s'ils ont vécu, dans la suite de leur carrière, des moments qui sont peut-être encore plus forts. Vous avez cité le doublé avec le LOSC, qui était, j'allais dire inattendu, oui et non, mais qui était un super moment professionnel en tout cas. Mais finalement, c'est quand même un souvenir d'enfance que vous choisissez.
Oui, parce que ce sont les premières émotions. Je pense que c'est celles qui marquent énormément. Et puis, quand on revit, je pense, d'autres émotions comme ce doublé qui m'a touché sur le plan professionnel, mais également personnel, parce que j'étais... supporter du LOSC aussi tout jeune, donc ça m'a doublement touché, on va dire. On vit cet événement pour revivre finalement ce qu'on a vécu dans notre enfance. C'est un souvenir qu'on a, donc cette première émotion qu'on a eue, je pense qu'elle nous marque à jamais, on a envie de retrouver ça.
Alors François, je voudrais qu'on commence par une question un peu plus générale. On reviendra un petit peu après sur votre carrière, votre évolution, vos différentes expériences. Mais on est dans une saison un peu particulière et maintenant on commence à avoir un petit peu de recul parce que depuis le début de cette saison 2022-2023, les mois d'août, septembre, on disait attention, la Coupe du Monde en plein milieu de la saison, c'est du jamais vu. Comment on va gérer ça? Comment les clubs vont gérer ça? Comment les joueurs vont gérer ça? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura plus de blessés, moins de blessés? Est-ce que les joueurs sont plus en forme, moins en forme? On avait quand même beaucoup d'interrogations parce que dans le foot, on n'avait pas connu une telle pause en fait. Alors pour certains, c'est pas une pause parce qu'ils ont joué en sélection, mais pour beaucoup d'autres, et même la majorité, ça a été une pause. On avait connu ça dans des sports américains avec des problèmes de les fameux lockouts en NBA, etc. Où pour des divergences contractuelles, on va dire, les championnats s'est arrêté. Mais là, on avait finalement un espèce de saut dans l'inconnu. Quel est votre regard sur l'impact qu'a eu cette Coupe du Monde, cette pause de manière plus globale sur la saison? Est-ce que vous étiez un peu renseigné sur ce qui s'était passé à travers des études, sur justement ce que j'ai dit sur le championnat de basket américain? Est-ce que vous aviez regardé d'autres éléments? Est-ce que vous aviez tenté une évaluation? Est-ce qu'il y a eu déjà un impact? Est-ce qu'il est positif, négatif? Est-ce que le fait d'avoir une double préparation, et puis donc entre la première de l'été et celle post-Coupe du Monde, avec une pause plus ou moins longue selon les clubs et ce qui ont été accordés aux joueurs en termes de jours de repos, quel est le bilan que vous pouvez faire?
J'ai un peu l'impression d'avoir vécu finalement deux saisons en une, parce qu'on est reparti cet hiver sur un schéma de préparation exactement comme on l'avait fait cet été, qui était une préparation sur 5 semaines. Et on a revécu finalement la même chose, et qui en plus à 3 était particulier parce qu'on a eu un changement de coach à ce moment-là. Donc on a retravaillé avec un nouveau coach et refait finalement une préparation globale avec un nouveau coach qui mettait en place donc de ces nouvelles directives, ces nouvelles façons de travailler. Donc j'ai un peu l'impression d'avoir vécu deux saisons en une. Donc est-ce que ça a eu un impact? Alors j'ai pas eu l'impression que directement on ait eu un impact, parce que j'ai pas eu l'impression, en tout cas moi sur mon domaine médical, qu'on ait eu plus de blessés ou plus de soucis médicaux par rapport à ça. Et comme on a refait finalement une préparation, les joueurs, lorsqu'on a repris le championnat, étaient prêts. Donc j'ai pas eu cette impression qu'il y a eu un impact énorme. Par contre, j'ai pas aimé cette période longue, parce que 5 semaines sans match en plein milieu d'une saison, en plein hiver, j'ai trouvé ça très très long. Il était temps que le championnat reprenne. Ce n'est pas quelque chose que j'ai apprécié. J'avoue que je préfère les saisons normales où on enchaîne. Bon, il y a toujours une petite pause à Noël, mais elle dure en général une semaine et ça repart. Là, j'ai trouvé ça trop long. Ouais. Trop, trop long.
Et si je ne me trompe pas, dans l'effectif de 3, il y avait 2 joueurs qui étaient concernés par la Coupe du Monde.
Oui.
Si j'ai bien tout fait les comptes.
Il y avait Ike Ugbo et Jackson Poroso avec l'Équateur.
Exactement. Ouais. Comment on retrouve ces joueurs-là? Parce que eux, alors la différence des Coupes du Monde, j'allais dire classiques, ou en tout cas ce qu'on avait connu jusqu'à présent, ils avaient le temps de faire une préparation avec leur sélection avant la Coupe du Monde, parce que généralement il y a un gros mois, on va dire, entre la fin de la saison de club et le début du grand événement, que ce soit une Copa América, une Coupe du Monde, un Euro, etc. Là, ils n'avaient pas ce temps-là, parce que de mémoire, les plus chanceux avaient 10 jours et les moins chanceux avaient à peine une semaine. Comment on les retrouve ces joueurs-là après une Coupe du Monde, selon évidemment le temps de jeu qu'ils peuvent avoir? Mais en tout cas, ils étaient concernés, ils ont fait des entraînements, ils ont fait peut-être un peu de préparation, ils ont fait des matchs soit directement de la Coupe du Monde ou des espèces d'opposition les lendemains de match, etc. Comment on les retrouve?
Différemment pour les deux, parce qu'en fait, Ike Ugbo n'a pas joué avec le Canada. Il n'a joué aucun match, donc du coup il est revenu comme s'il avait fait cette préparation avec nous, hein. Donc il est revenu assez rapidement et plutôt bien. Un petit peu déçu forcément parce qu'il n'avait pas joué, mais en tout cas sur le plan physique, je trouve qu'on l'a récupéré plutôt bien et vite. Alors tous les deux, on les a récupérés vite parce que malheureusement pour eux, ils ont été éliminés dès le premier tour, donc ils sont parvenus très tard, donc on a pu les réintégrer assez rapidement au groupe. Donc pour Ike assez facilement, et pour Jackson, il a joué deux matchs, lui je pense, complet sur la Coupe du Monde. Donc Il avait joué, mais bon, il était revenu un tout petit peu blessé, mais rien de dramatique. Mais par contre, on a pris un petit peu plus de temps avec lui. Il était aussi un petit peu déçu par sa prestation, par la prestation de son équipe, parce que je pense qu'il pensait aller un petit peu plus loin et passer le premier tour, et ça s'est un petit peu tourné en autre boudin au dernier match. Donc du coup, il était revenu un petit peu déçu. Donc on a dû gérer aussi un petit peu ça, mais bon, c'est quelqu'un qui est assez facile, Jackson, et qui a plutôt vite réintégré le groupe. Il était resté un petit peu déjà en Équateur, après en Espagne. Il était revenu un petit peu fatigué. Donc on l'avait géré un petit peu pendant une semaine et demie, je pense qu'on l'avait géré où il avait fait un travail uniquement avec les préparateurs physiques, où il avait fait un peu de récupération avec le staff médical. Et après, bah, progressivement, on l'a réintroduit avec le groupe. Il a pu être disponible pour la reprise de la saison qui était contre Nantes, si je me souviens, fin du mois de décembre.
Alors la fatigue, c'est un sujet qu'on va aborder un petit peu plus tard, parce que je trouve ça assez intéressant, et notamment sur le fait d'accepter de le dire aussi, qu'on est un peu fatigué ou un peu moins bien. On va dérouler un peu votre parcours, et la première chose qui m'a intéressé, c'est que vous avez travaillé dans plusieurs sports, donc il y a le football évidemment aujourd'hui, mais vous avez travaillé au niveau du basket, du hand, du volley, du rugby. Est-ce que d'un point de vue médical, il y a une réelle spécificité sur les types de traumatismes rencontrés dans chaque sport? Et autre question, est-ce que la fréquence des on va les appeler les pépins physiques, a été plus élevée dans l'un des quatre autres sports que vous avez, dans lequel vous avez eu une fonction par rapport au football?
Alors, oui, bien sûr, il y a des pathologies qui sont spécifiques à chaque sport. Par exemple, si je prends le cas du basket ou du volley, on va avoir des traumatismes au niveau des doigts, qui sont des choses qu'on rencontre quand même très peu dans le football. Alors ça peut arriver parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des jersey fingers, le joueur qui se prend donc le doigt dans le t-shirt ou le maillot de son adversaire, mais c'est pas des choses qui sont très fréquentes, alors qu'au volley, au basket, on en a quand même très fréquemment avec le ballon, parce que la spécificité fait que le jeu se fait à la main, donc du coup on a des blessures du membre supérieur plus importantes. Dans le hand, dans le volley, on a aussi pas mal de blessures d'épaule, hein, qui sont liés à ce mouvement d'armée. En handball, encore exacerbé parce qu'il y a un mouvement d'armée qui est contré, donc qui peut générer des pathologies de la coiffe et des pathologies articulaires. C'est des choses qu'on rencontre relativement peu dans le football, sauf parfois chez le gardien de but. Mais bon, le gardien de but, finalement, chez nous, c'est trois joueurs sur tout un effectif, donc ce n'est pas la majorité d'effectifs. Donc on va dire qu'en fréquence, on retrouve plus de pathologies membres supérieurs forcément dans le volley, le basket, même le rugby, que dans le football. La fréquence des blessures, j'ai trouvé dans le rugby quand même, on en voit beaucoup plus, hein, c'est quand même un sport de contact, ils n'hésitent pas à aller au charbon comme on dit, hein. Donc ouais, on a quand même une fréquence de blessures qui est quand même beaucoup plus importante. Alors, c'est pas forcément toujours des blessures graves, hein, bien que j'en ai eu, mais on a des impacts avec des sutures à faire au niveau du crâne, au niveau des paupières, on a des traumas d'épaule, des traumas de doigts, on a plein de choses. Après un match, c'est rare en rugby qu'on n'ait pas 4 ou 5 joueurs qui reviennent avec des bobos. Il arrive au football parfois, après un match, qu'il n'y ait pas un seul joueur qui vienne se plaindre. Donc, au rugby, quand même, on a de grosses pathologies. Le moins, je dirais, c'est le volley, parce que ce n'est pas un sport de contact. J'ai eu moins de blessures sur le volley. Par contre, on a des blessures que les volleyeurs s'infligent eux-mêmes. Par exemple, je penserais au jumper knee, qui est une pathologie de tendon rotulien, qui sont des tendinites rotuliennes à force de sauter. On en voit quand même pas mal dans le volley. Et puis des pathologies de réception, on peut avoir des ligaments croisés, bien sûr, dans le volley, qui sont des blessures plus graves. Mais en fréquence, on va dire en incidence, le volley me semble quand même moins pourvoyeur de blessures.
Dans le football, quels sont les blessures que l'on rencontre le plus souvent, ou en tout cas, alors la partie du corps, vous avez parlé des membres supérieurs pour le hand, le volley, etc. Donc je suppose que dans le foot, ce sera forcément plus les membres inférieurs, mais quels sont les points les plus fragiles? On a le sentiment comme ça, c'est un peu à la louche, hein, c'est un peu une estimation comme ça, mais la cuisse, parce qu'il y a beaucoup de phénomènes d'accélération, de dynamisme, d'appui même aussi parfois. J'imagine que c'est là peut-être le point le plus sensible des footballeurs.
Oui, indiscutablement, c'est la blessure musculaire, la lésion musculaire sur les ischio-jambiers d'ailleurs, qui est donc la partie postérieure de la cuisse, qui est la plus fréquente en incidence. Je le constate et je pense que dans termes de statistiques, j'ai déjà vu effectivement ce même constat. Oui, c'est de loin ce qu'on voit le plus, parce que le football est un sport d'accélération, décélération, avec beaucoup d'intensité, de plus en plus d'ailleurs. Puis la répétition des matchs, l'intensité des matchs fait que il se fragilise et puis donc la lésion musculaire domine largement. Après, on a la pathologie articulaire, je dirais classique, l'entorse de cheville, l'entorse de genou, alors qui peut être bénigne, qui peut parfois être plus grave, qui va dominer un petit peu le tableau. Effectivement, la majeure partie des blessures se trouve au niveau du membre inférieur.
Alors, vous avez commencé dans l'univers du football au LOSC, si je ne me trompe pas, votre plus longue expérience jusqu'à aujourd'hui, 8 ans, si j'ai les bonnes dates à peu près. Il y a un élément qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous avez connu le centre de formation et aussi l'équipe professionnelle. Et donc, vous avez travaillé avec à la fois des enfants, des adolescents et des adultes. À l'adolescence, notamment parce que le football est extrêmement concurrentiel, c'est là que se jouent finalement beaucoup de choses pour l'avenir de ces gamins au niveau du football. On sait qu'il y a des moments clés dans la formation qui font que il vaut mieux répondre présent à ce moment-là parce que on sait que sur le nombre de gamins qui rentrent en centre de formation, très peu réussissent finalement. Comment on encadre ces jeunes d'un point de vue médical pour que leur envie d'un avenir dans le foot, leur envie décuplée souvent, ne viennent pas perturber leur avenir comme être humain. Je m'explique. Comment faire en sorte de faire de la prévention pour ne pas trop en faire, pour écouter son corps, pour oser dire à son entraîneur qu'on a un petit bobo, pour dire que peut-être que là, il vaudrait mieux être au repos, etc., pas faire une séance d'entraînement ou pas jouer ce match-là, alors qu'on est dans un environnement ultra compétitif où les gamins vous le disent, moi, je veux être sur le terrain tous les week-ends pour montrer que je peux être un joueur de football professionnel.
Alors, complètement. Alors déjà, il y a une grosse différence effectivement entre le centre de formation et un groupe professionnel. Grosse différence dans le type des blessures aussi qu'on va rencontrer. Tu l'as bien dit, chez les jeunes, on va avoir des pathologies liées à la croissance qu'on ne retrouvera pas du tout, bien sûr, chez une population adulte. Et c'est souvent ces blessures-là, d'ailleurs, qui vont nécessiter de les mettre un petit peu en l'arrêt. Je pense, par exemple, à une pathologie comme l'osgood-schlatter, qui est une ostéochondrose de croissance, ou les maladies sévères chez les enfants un peu plus jeunes, qui sont des problèmes donc, d'articulation, d'insertion du tendon sur un os qui est fragilisé, on est obligé de les mettre au repos. Et c'est vrai que le jeune sportif, alors moi, je n'ai pas eu l'impression qu'il pensait à sa carrière avant tout. À cet âge-là, ils sont encore vraiment passionnés par le football. Ils sont vraiment des amoureux de leur sport et ils sont embêtés tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas jouer. Je n'ai jamais eu l'impression qu'il y ait un jeune joueur qui m'ait dit « Oui, mais ma carrière, je vais être embêté, etc. » Eux, ils veulent jouer parce qu'ils s'éclatent à jouer, ils s'éclatent à être sur un terrain. Ils sont dans ce trip de dire « Moi, je veux jouer. » Et donc, c'est vrai qu'il faut vraiment discuter avec eux pour leur dire « Mais... C'est nous qui penserons peut-être plus à leur carrière en disant « mais tu as une possibilité, ne te fiche pas en l'air parce que si tu continues à jouer effectivement avec ta pathologie au genou, là ça risque de poser un impact sur ta carrière ». Mais eux ne sont pas du tout dans cette réflexion-là. C'est nous qui leur remettons ça en leur disant « attention, on sait qu'il y a un risque potentiel pour ton avenir, il faut te mettre à l'arrêt ». Moi, je me suis vraiment éclaté dans le centre de formation à Lille parce que je trouvais qu'on avait une relation… très intéressante avec les gamins, parce qu'on pouvait avoir vraiment une pédagogie qui était intéressante, on pouvait leur expliquer, parce qu'ils n'avaient finalement aucune expérience. Et je trouvais qu'on avait quelque chose à leur inculquer, quelque chose à leur donner, qui peuvent leur servir après dans toute leur carrière. Et je pense être assez pédagogue pour leur expliquer, muni souvent d'un tableau blanc avec un petit Velédal, avec des petits feutres. Et j'adore leur dessiner des choses pour leur expliquer, parce que je prends beaucoup de temps à leur expliquer, y compris aux jeunes, parce que je pense que si un patient, un sportif, un jeune comprend pourquoi il a une blessure, comprend comment il doit faire pour la soigner, les mesures qu'il doit mettre en œuvre pour la soigner pour que ça aille mieux et que ça ne récidive pas, il fera les choses beaucoup mieux, il les fera de façon beaucoup plus intelligente que si on lui dit « non, c'est comme ça, point la ligne » et qu'il n'a rien compris. Mais voilà, on lui dit « il faut effectuer, point la ligne ». Quand ils sont juste effecteurs, ça passe pas. Quand on leur explique, et il faut pas avoir peur de leur expliquer, parce qu'ils sont pas idiots, ils comprennent très bien. Et il faut pas non plus qu'on ait ce rôle de médecin, ce dogme médical qui est au-dessus et qui fait loi, et on n'a pas besoin de t'expliquer, c'est comme ça, point la ligne. Je pense qu'il faut au contraire être très proche d'eux et leur expliquer ce qui se passe. Ils le comprennent très bien, et quand on leur dit, là, tu as un risque potentiel, donc on ne va pas pouvoir jouer là, malheureusement, mais ça te permettra de jouer plein d'autres matchs après. Et c'est vrai que peut-être tu vas rater 1, 2, 3 matchs, mais derrière, ça te permettra d'en faire plein d'autres, et tu en as encore plein d'autres à jouer, donc t'affole pas, on va te soigner. Et en général, ce message passait très très bien.
Le football, on en a parlé juste avant, l'accumulation des matchs, le facteur de l'accumulation des matchs sur les blessures, on sait que le football est très demandeur finalement avec les joueurs. Les joueurs d'ailleurs eux-mêmes veulent jouer, par passion déjà quand on est enfant, mais ensuite aussi pour des raisons peut-être plus professionnelles entre guillemets lorsqu'ils passent dans l'équipe première. Ils veulent évidemment se montrer, ils veulent être performants. Il y a toujours ce côté un peu en substance, en filigrane de la gloire, le meilleur contrat, etc. Ce qui n'est pas forcément un défaut d'avoir de l'ambition d'ailleurs. Les entraîneurs, veulent avoir au maximum leurs joueurs toute la saison parce que pour les résultats, c'est bien d'avoir un maximum de solutions à disposition pour jouer les week-ends. Il y a les dirigeants qui veulent que les joueurs jouent, bah, déjà pour les résultats, première chose. Deuxièmement, ensuite, pour les mettre en valeur et pourquoi pas pour les transférer pour une raison économique, etc. Ou un joueur qui arrive en fin de contrat dans 2 ans, bah, on commence à se dire, bah, s'il fait une bonne saison, peut-être que je pourrais le vendre et voilà. Et c'est aussi un regard sur la situation économique du club. Et vous, médecin, vous êtes un peu au milieu de tout ça, avec évidemment votre déontologie, avec votre regard hors football, parce que avant de soigner un joueur, vous soignez un être humain, un homme ou une femme, peu importe, avant que ce soit un ou une athlète. Est-ce que c'est toujours facile d'être la voix de la raison au milieu de toutes ces volontés d'avoir le maximum de disponibilité des joueurs, quitte à accélérer un peu les process de retour de blessure? Ou au contraire, de se dire, bah, lui, il a un petit pépin, bah, tant pis, on va forcer un peu, il va serrer les dents, ce genre de choses-là.
Alors non, on n'a pas un rôle facile du tout. On n'a pas un rôle facile du tout parce qu'il faut impérativement effectivement, qu'on garde notre autonomie, notre déontologie. On est effectivement avant tout le soignant d'un homme, d'un joueur, avant tout. Avant d'être un employé du club, alors des fois, les clubs ont du mal à entendre ça. On est avant tout ça, on est avant tout là pour les joueurs. Moi, mon rôle, c'est de protéger avant tout le joueur malgré tout. Il faut qu'on reste indépendant vis-à-vis de ça. Alors, pour ça, c'était un moment un petit peu le cas sur l'île, ça l'a moins été après, et ça allait très bien ici sur 3. On se protège de ça grâce au directeur de la performance, donc ici en l'occurrence qui est Pascal Faure. À l'époque, je travaillais comme ça aussi avec Benoît Delaval et Greg Dupont, qui servent un peu d'intermédiaire entre le staff technique et le staff médical. Ce qui permet d'éviter d'avoir cette confrontation directe avec le directeur sportif ou l'entraîneur, qui eux peuvent être effectivement un peu, on va dire, insistants sur la nécessité de retrouver leurs joueurs. Il faut, nous, en tant que médecins, qu'on reste complètement indépendants et avoir ce fusible entre les deux où on passe les informations en disant ben voilà, tel joueur doit être indisponible parce que, et c'est le directeur de la performance qui va expliquer ça au coach. Pour nous, c'est très très bien, ça nous permet justement de garder cette autonomie. On a en plus une consultation réelle avec le joueur qui est sous couvert du secret médical, donc on partage des choses avec le joueur qu'on n'a pas envie forcément que le coach sache aussi, que n'importe qui sache. Et donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on se prémunisse de tout ça et qu'on reste vraiment indépendant. C'est indispensable, je pense, pour le bien-être du joueur. Après, il n'en demeure pas moins que nous aussi, on a envie de gagner quelque part et qu'on a envie que le coach dispose aussi des joueurs dans son effectif. On est avant tout médecin, donc il faut que voilà, on s'assure que le joueur ait toutes les capacités pour réintégrer un groupe dans les meilleures conditions possibles. Moi, personnellement, je préfère que le joueur revienne bien sur un terrain plutôt que vite sur un terrain. On a des tests avec les kinés pour s'assurer que le return to play, donc le RTP, se fasse dans les meilleures conditions. Et ça, voilà, je reste très vigilant là-dessus pour que voilà, l'intégrité physique du joueur soit préservée le maximum lorsqu'il va faire ce retour au terrain.
C'est même une question presque logique et de performance, en fait. Si le joueur revient bien et à 100%, c'est peut-être mieux que le joueur qui revient à 70%, quel que soit le talent du joueur, finalement.
On est tout à fait d'accord.
Il y a un cas qui est très emblématique et qui est revenu un peu sur le devant de la scène avec ce qui est arrivé à Bruno Rodriguez, qui a été amputé d'une jambe, qui a alerté sur le danger des nombreuses infiltrations. Alors lui, dans son cas, a une cheville qu'il avait fait durant sa carrière et le nombre d'opérations, je crois qu'il a eu une douzaine d'opérations après la fin de sa carrière pour essayer de faire disparaître des douleurs et finalement c'était impossible et donc la voie de l'amputation a été choisie. C'est pas le seul joueur qui a connu des problèmes post-carrière. Moi, j'ai souvenir, parce que je suis beaucoup le football italien, de Battistuta, qui à la fin de sa carrière pouvait à peine marcher tellement il avait fait d'infiltrations. Quel est votre regard sur les infiltrations et leurs utilisations? Et ça revient un peu à ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que si on fait des infiltrations aussi quand on a une gêne, c'est parce que on estime dans le staff technique ou au niveau des dirigeants que la présence du joueur est tellement importante. Alors parfois, ça peut être le joueur qui le décide aussi. Hein. Bruno Rodriguez le dit aussi. Hein. Moi, j'ai fait le choix de jouer sous infiltration et ça a été une erreur. Quel est votre regard sur les infiltrations et finalement, avec ce qui est revenu un petit peu sur le devant de la scène, leur danger.
Alors déjà, la première chose qui m'interpelle, c'est est-ce que c'est l'infiltration qui fait qu'il a été nécessaire de l'amputer, ou est-ce que c'est à cause de sa blessure initiale qui finalement est toujours restée et qui a finalement dû être nécessaire de l'amputer. On ne sait pas quelle est la cause réelle, hein, finalement. L'infiltration est-elle en cause ? Point d'interrogation. Alors, ça ne veut pas dire que je dédouane complètement l'infiltration. Hein.
Je me permets de vous couper, François. Est-ce que, déjà peut-être pour les auditeurs, rappeler ce qu'est une infiltration ? En quoi ça consiste ?
Alors, une infiltration, ça consiste à injecter un stéroïde, donc de la cortisone, dans une articulation ou un tissu mou, un tendon parfois, il ne faut pas le faire, mais bon, ça peut se faire, dans le but de supprimer l'inflammation et supprimer la douleur. Voilà, c'est essentiellement un traitement symptomatique parce qu'on sait que finalement, on n'arrive pas à guérir des choses avec une infiltration, on les soulage. Donc, c'est pour moi souvent un traitement qui peut être temporaire dans le but de trouver une autre solution plus pérenne derrière. Alors, les infiltrations cortisonnées étaient avant la seule chose qui existait. Aujourd'hui, on a d'autres choses qui apparaissent, comme les infiltrations de PRP, hein, de plasma riche en plaquettes, qui vont avoir un effet à peu près identique, mais on utilise le propre sang du patient, on a beaucoup moins ces effets secondaires. Ce sont des choses qui sont moins risquées, finalement, que l'infiltration cortisonnée. Donc, il commence à y avoir des choses qui arrivent et qui sont intéressantes. Donc, cette infiltration, avantage inconvénient, c'est que, effectivement, le joueur sous infiltration va avoir beaucoup moins mal, il pourra continuer. Le problème, c'est que sa blessure n'est toujours pas soignée, elle est juste soulagée. Hein.
En quelque sorte, un peu endormie, quoi.
Exactement, quelque part endormie. Alors, on ne peut pas endormir parce que sinon, le patient n'a plus cette sensation. Tandis que là, il continue à sentir les choses, mais la douleur n'est plus présente. Et donc, du coup, il continue finalement à solliciter une blessure qui va, du coup, finalement, au fur et à mesure, s'aggraver. Alors, il y a des règles de bonne conduite sur les infiltrations qui existent. En théorie, on ne fait pas plus de 3 infiltrations sur une même année. On évite d'injecter plusieurs fois dans une même articulation. On évite en général d'infiltrer à l'intérieur d'un tendon parce qu'on sait que le risque, c'est de le rompre. Donc, il y a des règles de bonne conduite. Après, est-ce qu'elles ont été à chaque fois respectées parce que l'intérêt sportif prédominait sur l'intérêt médical ? Ça, je peux pas savoir, je me permettrai pas de juger, de porter un jugement quelconque là-dessus, surtout que je connais pas l'histoire particulière exacte de ces joueurs-là. Mais effectivement, le mésusage de l'infiltration peut avoir des conséquences qui peuvent être dramatiques. Après, il faut pas non plus voir l'infiltration systématiquement comme quelque chose de catastrophique. Elle peut être utilisée intelligemment pour pallier un cap et permettre ultérieurement de trouver une solution intéressante pour que le joueur puisse continuer à jouer. Je pense par exemple aux infiltrations qu'on peut faire sur des lombalgies, sur des sciatalgies par exemple, au niveau du rachis lombaire, qui ne vont pas avoir de conséquences dramatiques. Si on en fait une de temps en temps, ça peut très bien soulager le patient et de manière très efficace, voire des fois de manière pérenne, et leur permettre de continuer leur carrière normalement. Et puis voilà, ça s'est très bien passé. Donc l'infiltration n'est pas forcément à diaboliser non plus. Mais voilà, il y a des règles de bonne conduite, il faut l'utiliser intelligemment. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on va avoir des infiltrations répétées, parce que c'est ce dont il s'agissait pour Baptiste Rodriguez, effectivement, on peut se poser la question sur la bonne indication. Je pense qu'il faut être très mesuré quand on utilise ce genre de produits qui peuvent être potentiellement dangereux. Oui.
Et d'ailleurs, on peut le préciser, c'est que n'importe qui peut avoir des infiltrations. Vous parliez de la lombalgie, etc. Pour des mal de dos, n'importe qui. Moi, si demain j'ai mal au dos, je peux me faire une infiltration qui peut me soulager de manière plus ou moins temporaire d'ailleurs. Et c'est pas simplement réservé aux sportifs en fait.
Pas du tout, non, mais c'est... Alors, n'importe qui, non, c'est sur prescription médicale, donc effectivement, c'est qu'un médecin doit quand même être derrière.
C'est pas simplement un sportif, c'était plutôt dans ce sens-là.
Exactement, tout à fait, j'ai bien compris. Oui, bien sûr, on fait des infiltrations à monsieur tout le monde, madame tout le monde, même parfois des sujets relativement jeunes, hein, donc bien sûr, l'infiltration peut se faire à tout le monde, oui.
Dans le lien entre centre de formation et équipe première, quelle est l'incidence de l'âge dans la récupération des blessures? Alors ça peut être des blessures musculaires ou des blessures un peu plus lourdes comme les interventions chirurgicales de type, je sais pas, croisé, rupture du tendon d'Achille, du tendon rotulien, je sais pas, fracture du tibia, etc. On entend souvent dire que plus on avance dans l'âge et plus c'est compliqué de revenir d'une blessure pour les footballeurs. Quand on a 35 ans, on entend c'est plus dur de revenir d'une blessure musculaire, on met plus de temps, etc. qu'un jeune de 17 ans. Est-ce que c'est vrai? Quelle est l'incidence de l'âge sur la... Je ne sais pas si on doit utiliser le terme récupération, mais sur le fait de guérir en tout cas.
Pour moi, l'âge, en tout cas jeune, n'est pas un problème. On récupère très bien quand on est jeune, effectivement. Le problème se pose plutôt quand on est beaucoup plus âgé, et encore même parliez des sujets de 35 ans, moi j'irais même plutôt sur des sujets de 70-80 ans, où c'est plus difficile de récupérer. Alors c'est vrai qu'à 35 ans, on récupère un petit peu moins vite aussi qu'à 20 ans, ça c'est sûr. Mais là, chez le sujet jeune, n'est pas vraiment un problème pour moi. Le sujet jeune, c'est un autre problème, c'est le type d'intervention qu'on va faire. Alors, tu parlais tout à l'heure des ligaments croisés. La chirurgie du ligament croisé ne va pas forcément être la même chez un sujet jeune qu'un sujet adulte, parce qu'ils ont ce qu'on appelle les cartilages de croissance, hein, qui sont des zones cartilagineuses où l'os grandit, et il faut éviter de traverser ces zones cartilagineuses qui pourraient empêcher l'os de grandir. Donc effectivement, les indications chirurgicales ne sont pas exactement les mêmes que chez l'adulte. Donc les techniques chirurgicales ne sont pas non plus toujours les mêmes. La prise en charge globale effectivement, d'un sujet jeune et d'un sujet adulte ne vaut pas forcément être toujours les mêmes. Mais il faut savoir que les sujets jeunes, donc en centre de formation, ont plutôt tendance à récupérer assez facilement et spontanément. Par exemple, la kiné chez un enfant est plus facile parce que les enfants, ben, par eux-mêmes, quand ils vont aller mieux, ils vont réutiliser leurs membres de manière assez facile. Et je trouve que la kiné, enfin, il faudrait demander à un kiné, mais pour moi, la kiné est plus facile chez un sujet jeune qu'un sujet plus âgé. Il y a moins de raideur, moins d'ankylose. C'est plus facile de récupérer, effectivement, quand on est jeune. Mais après, chez les jeunes sportifs professionnels, on va dire jusqu'à 27, 28, 29 ans, on ne voit pas beaucoup de différence en termes de délai de récupération.
Et y compris sur des blessures musculaires, je ne sais pas, des déchirures, ce genre de choses-là. J'avais discuté une fois avec... j'avais fait un podcast même avec Philippe Kuenz.
C'est cool, c'est vrai.
Ouais, exactement. Et en fait, lui, il me disait, on avait parlé de la visite médicale, il me disait, à la visite médicale, on voit tout. On voit tout l'historique, parce que quand on fait des examens, on voit telle déchirure musculaire, etc. Est-ce que le passé aussi du joueur, donc... Finalement, alors il peut se blesser très jeune, très souvent, hein, mais on va dire que c'est un sujet de 30 ans a sans doute, en proportion, connu plus de blessures qu'un jeune de 18 ans. Est-ce que ça peut avoir une incidence aussi sur la récupération ?
Alors, mais ça, complètement. C'est-à-dire que si effectivement un joueur plus âgé mettra plus de temps pour récupérer, c'est parce que justement, il a ce passé médical qui peut être un souci. Sur des visites médicales, effectivement, quand on fait des échographies, on peut tomber sur des fibroses cicatricielles qui sont témoins de lésions anciennes. Et on sait qu'un patient qui a déjà eu une lésion musculaire, par définition, est plus à risque de récidiver. Donc déjà, on sait que c'est un facteur de risque. Mais en plus, une lésion musculaire qui va survenir sur une cicatrice ancienne va mettre plus de temps également pour cicatriser. Donc en fait, la difficulté de cicatrisation n'est pas tellement liée à l'âge en lui-même, mais plutôt liée au fait qu'il y a déjà des antécédents médicaux qui sont problématiques.
D'accord. Et est-ce que sur les visites médicales, etc., est-ce que vous avez rencontré des... Parce que c'est difficile pour les joueurs. C'est l'ancien médecin Monaco qui expliquait... On a une discussion en amont, évidemment, avec avant même de passer l'examen, on discute, etc. Et c'est difficile aussi pour les joueurs de dire, j'ai eu 5 blessures à la cuisse, etc. Parce qu'ils estiment que ça peut faire capoter un transfert, par exemple. Est-ce que vous avez rencontré ce type de situation où à l'examen, on se rend compte que finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on nous avait dit lors du discours?
Oui, les joueurs vont toujours essayer plus ou moins de masquer effectivement ce qu'ils ont eu, parce qu'effectivement, ils peuvent avoir peur que ça puisse se faire capoter. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être ridicule, parce que des fois, c'est pas grand-chose, mais nous, on a besoin aussi de savoir ce qu'ils ont pu avoir, parce que c'est important dans leur futur médical et la prise en charge préventive qu'on va pouvoir mettre après. Donc, on a besoin de savoir ces informations. Donc, c'est vrai que des fois, il faut être quasiment sur des interrogatoires policiers pour le savoir. Oui, ils peuvent avoir tendance à le cacher. Oui, ça m'est déjà arrivé. Malheureusement, parfois, ce sont des problèmes qui sont assez embêtants. Et puis, on est obligé de le signaler et puis de faire capoter un transfert. Ça m'est déjà arrivé aussi, malheureusement. Parfois, c'est des blessures qui sont insignifiantes. Mais effectivement, dans l'imaginaire du patient, du sportif, ça peut être rédhibitoire. Donc, du coup, il nous le cache. Donc, ouais, c'est une visite qui est assez importante parce qu'effectivement, il faut essayer de ne passer à côté de rien. Il faut essayer de tout trouver, des fois de trouver la supercherie. Parfois, c'est un jeu de piste. Ouais.
Alors, outre des interventions pour diagnostiquer les blessures, pour mettre des protocoles de réhabilitation sur pied pour évidemment permettre aux joueurs de revenir en bonne forme, le suivi des blessés. Le médecin, il peut aussi intervenir en amont auprès des joueurs, évidemment, pour éviter ces blessures, parce qu'on parle souvent de... En fait, dans l'imaginaire, le médecin est là pour soigner une fois que c'est arrivé. Alors qu'en fait, il y a aussi toute une part de prévention qui est effectuée. On peut parler de plein de choses, hein, de sommeil, de nutrition, de récupération, de travail en salle, de beaucoup de choses, et vous allez sans doute en rajouter, mais ce qu'on appelle la préparation invisible hors terrain, finalement, c'est en gros la médecine de bien-être qui est complémentaire et qui arrive peut-être même avant, alors ça peut être aussi après une blessure qu'on prend conscience de certaines choses, mais ça peut arriver avant la médecine de soins. Comment vous intervenez sur ce domaine de la médecine de bien-être, alors soit aujourd'hui, mais aussi dans le passé? Est-ce que finalement votre vision, votre discours a évolué au fil des années?
Alors oui, il y a beaucoup de choses là. Il y aurait beaucoup de choses à dire en fait. Alors le rôle du médecin, oui, c'est pas uniquement soigner, bien entendu. On a un rôle dans la prévention. On a également un rôle dans la prévention antidopage. Hein, c'est important aussi de faire l'éducation sur le dopage, etc. On a un rôle. Alors conjointement, maintenant, on a la chance d'avoir aussi des nutritionnistes, des diététiciens dans les clubs qui nous aident aussi. Mais effectivement, la partie hydratation, alimentation est importante. La partie sommeil est très importante dans la prévention. On travaille également de concert avec les kinés parce qu'ils ont un rôle capital aussi dans le bien-être finalement physique des joueurs, parce qu'on voit des fois les massages, etc. Alors le massage, il n'a pas forcément toujours un rôle physique, il a souvent un rôle de récupération, de détente, de retour au calme après l'activité sportive. Le kiné est également un confident bien souvent des joueurs, parce que les kinés passent beaucoup plus de temps d'ailleurs avec les joueurs que nous. Ce sont eux vraiment leurs vrais confidents. J'aime bien aller voir les kinés pour leur demander un peu comment vont des fois les joueurs, parce que c'est eux qui nous donnent les meilleures informations parfois. Et la prévention, en fait, c'est tout ça. C'est un travail global qui comporte énormément de choses qui sont au quotidien, qui sont là aussi même la façon dont on va discuter avec le joueur, le rapport qu'on va avoir avec lui. Des fois, ils viennent des fois nous parler de leurs problèmes de famille, de leurs problèmes de voilà, leur fille qui a été malade, etc. Il faut gérer. Je suis fatigué aujourd'hui parce que ma fille n'a pas dormi, etc., etc. C'est compliqué. Donc, il y a plein de choses qui entrent dans cette prévention et cette intervention que nous, on peut avoir pour limiter le risque de blessure, qui n'est pas uniquement physique. Il y a effectivement la partie physique qui est très bien prise en charge par nos préparateurs physiques. Eux, ils sont vraiment, en charge de cette prévention-là. Mais il y a plein d'autres choses, effectivement, sur lesquelles le staff médical, alors quand je parle staff médical, ce n'est pas que le médecin, mais c'est bien, comme je disais, kiné, mais même le podologue, le posturologue, l'ostéopathe. On est beaucoup à intervenir. Chacun à notre petite échelle, chacun apportant sa petite pierre à l'édifice pour réduire le risque de blessure. C'est l'ensemble de cette prise en charge qui fait qu'on arrive plus ou moins à réduire. Après, le problème, c'est qu'une blessure, c'est pareil, c'est multifactoriel. C'est pour ça que, comme la blessure est multifactorielle, il faut avoir multiples interventions en amont. Mais malgré ça, on peut passer à côté de quelque chose. Et le joueur se blesse. Il y a tellement de choses à voir qu'on ne peut pas être parfait dans tout. Mais effectivement, notre rôle, c'est d'essayer de limiter un maximum chaque facteur qui pourrait être un risque de blessure ultérieure. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place. Mais on pourrait en discuter pendant des heures parce que tout est relativement important, alors que chaque élément à son échelle est minime. Mais au total, c'est vachement important. Donc, est-ce que ça a évolué? Alors, ça a évolué dans le sens où, de plus en plus dans les clubs, il y a des nutritionnistes. Alors, à l'époque, au centre de formation à Lille, je n'avais pas de nutritionniste, donc je faisais ma part de nutrition. Alors, on avait quand même un restaurant où, on va dire, des règles diététiques qui étaient mises en place, mais les joueurs pouvaient faire un petit peu n'importe quoi. Donc, on était là pour essayer de leur dire, fais attention, évite de manger ça, évite de manger ça, évite d'aller en ville et de revenir avec du saucisson et du gâteau parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, il faut leur expliquer tout ça. Ça a quand même un petit peu évolué parce que on connaît de plus en plus au fur et à mesure les facteurs de risque potentiels. On arrive à les réduire un maximum, on n'a pas encore tout réduit. Est-ce qu'on arrivera un jour à tout réduire? J'en doute. Il y aura toujours des petits éléments qui peuvent passer à travers les mailles du filet et générer des risques de blessures. Il y a une chose qui est importante, c'est l'état psychologique du joueur. Moi, j'ai quand même souvent remarqué qu'un joueur qui va avoir des soucis psychologiques, un mal-être pour x raison, hein, qui peut être professionnel, mais qui peut être personnel, qui peut être familial ou n'importe quoi, bien souvent, on retrouve une blessure derrière. Il y a souvent quand même ce parallélisme. Même post-blessure, quand on discute avec le joueur, il y a toujours quand même un petit élément qui a certainement pu être un élément déclencheur. Donc c'est important pour moi d'essayer de bien s'assurer du bien-être psychologique des joueurs. Et puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la médecine de bien-être, la médecine prévention bien-être, c'est un peu tout ça, c'est essayer de d'éliminer de leur tête tous les soucis qu'ils peuvent avoir. Donc, on dispose de plein de choses. On a des saunas, on a des jacuzzis, on a des piscines, on a des kinés, on a des diététiciens, on a des podologues. On a plein de choses qui sont mises en place autour du joueur pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles, le meilleur bien-être possible et réduire le risque de blessure.
Justement, sur l'impact de l'état psychologique des joueurs, est-ce que, soit au LOSC, soit, on va parler tout à l'heure de votre expérience en Arabie Saoudite, maintenant à l'ESTAC, vous mettez en place les petits questionnaires avant chaque entraînement. Voilà, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que ça va? Ce genre de choses-là.
Tout à fait, c'est quotidien. Ça. C'est effectivement, les joueurs arrivent, ils ont leur petit questionnaire. On rentre ça sur informatique. Donc, on a tout de suite des petits messages d'alerte qui peuvent apparaître, des petites zones rouges qui peuvent apparaître, qui nous permet effectivement d'être vigilants sur certains aspects, effectivement, oui.
Alors après Lille, justement, vous avez rejoint le club d'Al Fateh, j'espère que je le dis bien, je suis pas certain.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais,
Fateh, ouais. Ok, en Arabie Saoudite, vous y êtes resté une saison. Avant de revenir plus généralement sur ce que ça vous a apporté, il y a un thème qui est beaucoup revenu dans l'actualité du foot ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est la gestion du Ramadan. Dans un pays où la religion musulmane est une religion d'État, comment est-ce que vous avez géré la période du Ramadan avec les joueurs? C'est peut-être totalement un cliché ce que je vais dire, mais que ça doit être peut-être un peu plus organisé ou un peu plus centré sur ça, ou en tout cas on a plus l'habitude de le gérer, je ne sais pas comment le dire, mais il y a peut-être des choses qui sont mises en place à ce moment-là pour faciliter, entre guillemets, je ne sais pas, genre décaler les horaires des entraînements, ce genre de choses-là, qui sont peut-être plus facilement mis en place en Arabie Saoudite.
Oui, tout à fait. En fait, l'expérience en Arabie Saoudite a été très intéressante et m'a finalement appris beaucoup de choses. Au niveau culturel, déjà, sur l'Arabie Saoudite, sur la région musulmane. En fait, j'ai compris une chose déjà assez importante pour eux. Le Ramadan, c'est un des piliers de l'islam. C'est très, très, très important. Donc, tourne autour de ça, finalement. Le Ramadan étant la chose la plus importante pour eux, ben, c'est ce qui va prioriser. C'est ce qui va être la priorité pour eux. Donc, ça a été simple. Quand il y a eu la période de Ramadan, il y a eu une décision cette année-là qui a été de suspendre tous les matchs pendant la période du Ramadan. Tout a été arrêté. Le championnat a été arrêté. Il a été reporté jusqu'un petit peu plus tard, fin juin, parce qu'effectivement, ils avaient décidé que Ramadan, on arrêterait tout. Alors, les entraînements ont quand même continué, mais du coup, on s'entraînait à 22h45 le soir, jusqu'à minuit et demi. Là-bas, ce n'est pas trop gênant, parce qu'en Arabie Saoudite, finalement, on vit un peu la nuit. Il faut savoir qu'il fait tellement chaud la journée, hein, ça monte des fois à 50-55 degrés dans la journée, que on attend que le soleil se couche, ils rompaient le jeûne tranquillement, et puis ils venaient s'entraîner donc jusqu'à minuit et demi, et puis après la vie se fait. Hein. Vous allez en Arabie Saoudite à 2h du matin, les magasins sont pleins. Les supermarchés sont pleins avec des enfants, avec tout. Hein. Il y a des enfants de 2-3 ans qui sont tenus à la main. On vit la nuit là-bas. Donc c'est une façon de fuir la chaleur et puis de vivre plus paisiblement la nuit. Donc en fait, leur adaptation, elle est finalement pour eux très très simple parce que tout tourne autour de ça. C'est la partie la plus importante pour eux. Donc le problème ne se pose pas. Le Ramadan, c'est un problème très occidental finalement. C'est nous qui en créons un problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est comme je disais, c'est un pilier de l'islam. Et un joueur qui veut faire le Ramadan, on aura beau lui dire où tu rompes ton jeûne, où tu ne joues pas, mais il dira c'est bon, je ne joue pas. Parce que pour lui, c'est plus important. Alors j'entends aussi des réflexions de dire oui, mais le jour du match, tu peux rompre le Ramadan et tu le rattraperas après. Alors il faut savoir qu'à la fin du Ramadan, ils ont une fête, qui est l'Aïd. Alors c'est exactement comme si on disait, par exemple, pour un catholique, un fervent catholique, c'est pas grave, à Noël, tu le feras 5 jours après tout le monde. En fait, tout le monde va faire sa fête le 24 et puis toi, non, tu vas le faire le 29. Mais non, c'est une fête familiale et ils n'ont pas du tout envie de le faire après. Donc, ils n'ont pas du tout envie de reporter leur Ramadan à quelques jours parce que ils ont envie de faire la fête familiale avec tout le monde le jour de l'Aïd. Donc, c'est idiot, mais c'est exactement comme ça. Donc, pour eux, c'est très, très important. Donc, je pense que plutôt que se braquer et d'aller en opposition, je pense qu'il faut les accompagner. Donc, c'est nous le choix qu'on a fait ici à trois, en discussion avec le coach, bien sûr, mais surtout avec Pascal Faure, le directeur de la performance, ça a été d'essayer d'accompagner un maximum les sportifs ici qui voulaient faire le Ramadan. Avec l'aide du diététicien, on leur a proposé des manières de rompre le jeûne, de manière de bien s'hydrater quand ils pouvaient, etc. mais certainement pas aller en opposition. Donc, c'est le choix qui a été fait et je ne le regrette pas. Et puis, finalement, quand on voit les joueurs qui ont fait le ramadan, ils ont été aussi performants. Ils n'ont pas été blessés pendant tout le ramadan. D'ailleurs, j'ai lu plusieurs études. On n'a pas vraiment d'études qui montrent une augmentation de l'incidence des blessures pendant la période du ramadan hein, chez les sujets qui sont en période de carême. Hein.
Et ça, c'est bien de le dire parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on entend souvent. On entend d'ailleurs plutôt l'inverse habituellement. Mais effectivement... Le discours très occidental que vous avez évoqué est effectivement quelque chose qu'on doit sans doute dépasser. Et de toute façon, l'opposition frontale marche très rarement.
Ça marche pas.
Ouais, c'est ça. Donc après, c'est comment le faire de la manière la plus intelligente possible en respectant la volonté, la foi de chacun, en fait.
Exactement. Et leur foi est très importante, donc il faut la respecter. Il faut certainement pas aller en opposition. Ça, c'est quelque chose que voilà que m'a beaucoup apporté l'Arabie Saoudite, c'est de comprendre ça. C'est vrai qu'au début, il y avait des choses qui me paraissaient un peu étonnantes ou même je me moquais un petit peu en disant mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, non, faut comprendre que c'est culturel pour eux. Donc eux, ils ont la même réaction vis-à-vis de nous. Quoi. Il y a certaines choses, ça leur fait rire la façon dont nous on réagit. Mais c'est juste de la culture, quoi. C'est différent, donc il faut accepter ces différences et essayer de les comprendre. Et je pense que quand on les comprend, on les tolère déjà un petit peu plus. Et puis, il suffit juste de s'adapter et puis voilà, et certainement pas aller en opposition.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Qu'est-ce que vous a apporté d'autre cette expérience à l'étranger? On dit souvent que vivre à l'étranger vous fait prendre conscience de pas mal de choses, vous fait découvrir des nouvelles cultures évidemment, que ça peut vous changer, vous faire évoluer, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience dans, je le précise, hein, c'était dans l'est de l'Arabie Saoudite? Si vous prenez une carte de l'Arabie Saoudite, vous allez tout à l'est, pas loin de Dubaï, je crois.
Al Houf, c'est une ville qui est située proche de la frontière qatariote, proximité de Bahreïn aussi. C'est une ville qui est vraiment perdue au milieu du désert. Il n'y a pas grand-chose autour. On se retrouve un petit peu parachuté là, sans la famille, parce que ma femme était restée en France avec ma petite-fille qui venait de naître. Ma fille est née début juillet et moi, j'étais parti fin juillet là-bas. Donc, c'est vrai qu'un petit peu difficile de partir là-bas, où on se retrouve vraiment tout seul avec un bébé de jeune âge qui reste en France et qu'on ne voit pas grandir au début, c'est un petit peu difficile. Alors, ma femme est bienvenue, effectivement, un peu en Arabie Saoudite quelque temps, mais on la vit pour les femmes en plein milieu de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile, donc elle n'a pas vraiment apprécié. Elle est vite repartie. Moi, c'était une expérience plutôt intéressante parce que je travaillais déjà, donc j'étais très occupé. Un club qui est un bon club d'Arabie Saoudite. Hein, actuellement, là, ils sont en cinquième, je pense, derrière donc les quatre grosses équipes d'Arabie Saoudite qui sont Ittihad, Shabab, Al-Nasser et Al-Hilal. Ces quatre-là sont un peu intouchables. Et puis derrière, y a un deuxième championnat qui se déroule avec les autres équipes. Et Al-Fateh fait partie, on va dire, des meilleures équipes de ce deuxième championnat. Une belle expérience avec des gens très accueillants. C'est un peuple qui est très accueillant d'ailleurs, des gens où j'étais plutôt agréablement surpris de leur accueil et de leur bienveillance. Un club plutôt bien organisé. Ça reste loin des standards quand même de la Ligue 1 française, mais c'est un club qui est plutôt bien organisé avec des infrastructures qui sont des infrastructures étatiques. Donc tous les stades sont ressemblent, ils sont à peu près tous bâtis sur le même schéma, des pelouses qui sont étonnamment d'une qualité incroyable. On pourrait penser qu'en plein milieu du désert, ce serait la catastrophe. Et ben non, on a vraiment des pelouses qui sont extraordinaires. Des joueurs qui sont plutôt de qualité, moi j'ai trouvé. Je ne suis pas technicien, donc je ne m'aventurerai pas dans un domaine qui n'est pas le mien. Mais j'ai quand même une connaissance du football quand même, et des plutôt de très très bons joueurs. Alors, on a des Saoudiens, mais on a aussi beaucoup d'Européens, de Marocains, Algériens, parce que ça vient un petit peu de partout, parce que L'Arabie Saoudite est quand même réputée pour bien payer, donc on a des joueurs qui viennent souvent en fin de carrière pour toucher un petit peu d'argent et jouer dans un championnat qui reste encore assez compétitif. Donc une expérience plutôt, je dirais, positive sur le plan professionnel, qui est parfois un petit peu difficile parce que le système de santé n'est pas vraiment le même qu'en France. Donc c'est une expérience qui est assez intéressante parce qu'on se retrouve un petit peu, je permets l'expression, mais avec sa bite et son couteau là-bas, on n'a pas grand-chose. Alors, ils ont des examens paracliniques, ils ont des IRM, des échographies, mais les interprétations, ce n'est pas vraiment ça. Là-bas, des lésions musculaires, elles sont toutes grade 2, que ce soit une lésion minime ou une rupture complète, grade 2. Ça, c'était assez étonnant. Alors, il a fallu que je me batte un petit peu pour obtenir un échographe, pour faire moi-même mes échographies, pour avoir un petit peu plus d'objectivité dans la prise en charge. Ce qu'ils ont finalement accepté par faire parce qu'ils ont des moyens aussi et puis ils n'ont pas rechigné à acheter un appareil d'échographie pour qu'on puisse avancer un petit peu et faire du diagnostic intéressant. Et après, des choses qui sont assez étonnantes, mais comme je l'ai expliqué, c'est culturel. Un joueur, dès qu'il est malade, dès qu'il n'est pas bien, il va à l'hôpital, ils vont lui mettre une perfusion de sérum salé, tout simplement, avec un paracétamol, et puis il revient une heure après, c'est bon, je vais mieux parce que j'ai eu ça. C'est très basique, mais ils sont contents parce qu'ils ont eu ça. Il y a une prise en charge qui est assez étonnante, qui est complètement différente de ce qu'on va retrouver en France. Mais ouais, on a réussi à faire, je pense, du bon travail avec des kinés qui ont été beaucoup à l'écoute. J'étais là aussi pour travailler avec eux, essayer de les former un petit peu. Et ils ont été plutôt très à l'écoute et contents d'avoir un discours aussi un petit peu différent. On a essayé de faire pas mal de prévention, on a essayé de faire pas mal mettre en place des protocoles de récupération sur certaines blessures. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai trouvé l'expérience assez intéressante. Sur le plan personnel, plus difficile, comme j'expliquais, parce que loin de sa famille, et puis l'envie de rentrer à la maison, l'envie de rentrer en France, voir sa petite fille grandir, c'était important, et c'est pour ça que je suis resté qu'une seule année.
Vous êtes aujourd'hui à l'Estac, le club de Troyes, qui fait partie du City Football Group depuis plusieurs mois maintenant. La première question qui m'intéresse évidemment, et je pense que à chaque fois qu'on parle de ce groupe-là, c'est quasiment un passage obligatoire. Quelles sont les interactions que vous avez au sein des différentes entités du groupe ? J'ai vu notamment que vous aviez fait un stage à Manchester City, précisons-le, fin 2022, si j'ai bien tout suivi, ou début 2023. Quelles sont les interactions, les échanges que vous pouvez avoir sur des pratiques, les différents protocoles, ce qui peut être vu, des études aussi qui peuvent être partagées au sein du groupe ?
Alors, déjà, je tiens à signaler que Citigroup nous laisse vraiment, au niveau médical en tout cas, une parfaite indépendance. C'est-à-dire qu'il nous laisse vraiment gérer le médical comme on l'entend ici. Donc, c'est plutôt confortable. Ils sont là plutôt comme, on va dire, je dirais, un appui si on a besoin de quelque chose. Alors, si on a besoin, pourquoi pas, d'un avis médical, si on a besoin d'une rééducation, ils sont prêts également à accueillir sur leur site à Manchester City, qu'on a visité quand on est allé effectivement en stage là-bas. Ils ont un centre d'entraînement qui est extrêmement bien équipé, qui peut faire penser un petit peu à ce qu'on retrouve à Clairefontaine par exemple. Ils nous proposent, si effectivement on a certains joueurs qui nécessitent une réhabilitation longue durée, éventuellement de les faire là-bas. Donc ils mettent à disposition des outils si on en a besoin. Après, ils sont un peu regardants, entre guillemets, sur les screenings de début de saison quand on fait un recrutement d'un nouveau joueur. Parce que ce sont eux qui investissent. Ils me font parfaitement confiance sur l'examen clinique, sur tout ça. Par contre, ils exigent certaines choses. Alors, ils veulent un scanner, un IRM complet, corps entier. Ça, ils exigent ça. Quoi qu'il en soit. Et puis, il faut leur envoyer l'ensemble du bilan que nous, on fait. Alors, on fait le bilan cardio, la prise de sang, l'examen clinique. Alors, ils nous envoient un petit questionnaire, effectivement, qu'on doit remplir sur l'état de santé du joueur. Donc, ils exigent ça. Par contre, ils me laissent quelque part le choix de dire oui, le joueur est apte ou n'est pas apte. Ou quand j'émets effectivement une réserve, le docteur Bisley, donc Yann Bisley, qui est le médecin donc, de Citigroup, s'entretient avec moi et on discute effectivement du cas, si effectivement ça peut avoir le coup d'investir pour un joueur comme ça ou pas. Donc ils sont accompagnateurs plus que directifs. Je n'ai pas senti de directive. On nous laisse vraiment l'autonomie, on nous laisse vraiment travailler, on nous laisse travailler en confiance. Ça, c'est plutôt, plutôt agréable quand même.
Et est-ce que vous avez des échanges avec, le médecin du club au Japon, en Australie
Non.
Non, vous n'avez pas non. d'échange particulier à ce point-là.
Non, on n'a pas d'échange particulier. Le seul échange qu'on a, comme j'expliquais, c'est avec le docteur Yann Bisley, qui est le médecin du Citigroup. Donc, il lui chapeaute, on va dire, l'ensemble du groupe. Donc, il est lui en contact avec l'ensemble des médecins des différents clubs. Donc, lui, c'est un intervenant avec qui
un coordinateur quelque part.
Voilà, c'est un coordinateur, qui a plus un rôle, comme j'expliquais, d'observation que directif. Hein, il ne demande rien de particulier. Par contre, non, j'ai pas du tout de contact avec les autres clubs. Non, pas du tout.
En discutant avec plusieurs acteurs du monde médical, j'englobe pas mal de choses dans le monde médical. Je sais pas si je fais bien de les englober, mais aussi des préparateurs physiques, ce genre de personnes-là. Il y a une observation qui revient quand même souvent, c'est que faire du sport de manière régulière, en dehors du football professionnel, aide à se maintenir en bonne forme. À l'inverse, maintenant je rentre dans le football professionnel, le sport de haut niveau est, je ne sais pas quel terme employer, un peu destructeur, un peu néfaste, voilà, c'est peut-être des mots forts, peut-être qu'il faudrait prendre un qui ne me vient pas forcément à l'esprit actuellement. Avec la pratique de plus en plus intensive, là je recentre sur le football professionnel, avec la multiplication des matchs et des compétitions, avec les enjeux financiers évidemment qui sont toujours plus importants, qui ajoutent du stress pour les joueurs, qui sont finalement les premiers acteurs du spectacle sur le terrain, est-ce que vous estimez que ces joueurs-là, aujourd'hui, sont sursollicités, et je ne parle pas simplement de nombre de matchs, mais de sollicitations aussi, de pression, de stress, etc.
Oh, je pense que c'est une évidence quand même. Finalement, la réponse est dans la question. Oui, ils sont extrêmement sollicités. Pour certains joueurs, ceux qui ont une carrière internationale, en plus d'une carrière en Coupe d'Europe, ils peuvent être amenés à faire 2-3 matchs par semaine. Donc c'est absolument incroyable, c'est énorme. Finir à plus de 60 matchs sur une saison, c'est bien sûr que c'est énorme. C'est énorme. Pour revenir à ce que tu disais, oui, le sport, effectivement, est un vecteur de bien-être. Effectivement, le sport en excès génère, on le voit bien chez les joueurs trentenaires, footballeurs trentenaires, énormément de pathologies articulaires, ligamentaires, les blessures qui s'enchaînent génèrent effectivement des petits soucis. On parlait tout à l'heure donc de Baptiste Toutard, Rodriguez, etc., qui sont des joueurs qui ont extrêmement souffert à la fin de leur carrière. Comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas trop si finalement c'était à cause des infiltrations ou à cause de la blessure initiale qui finalement en sont arrivés à cet état-là. Mais c'est sûr que la répétition des matchs génère beaucoup plus de dégradation articulaire. On sait qu'un cartilage, pour parler uniquement au niveau articulaire, il a besoin de quelques jours après une activité pour se régénérer. On sait qu'à chaque fois qu'on fait une activité sportive, on a des micro-lésions, des micro-dégâts, et il va se régénérer tout doucement dans les jours qui vont venir. Si on ne laisse pas le temps de ce cartilage de se régénérer, il va de nouveau surléser, puis surléser, puis surléser, et puis on va finir par avoir des lésions qui sont irrémédiables. Donc oui, bien sûr que la succession et l'intensité et la pression qu'il va y avoir derrière génèrent des risques sur la santé. Mais je pense que tous les sportifs en sont conscients. D'ailleurs, il y a plein de sportifs qui disent « oui, ça c'est ma carrière, fin de carrière ». C'est presque une normalité pour eux, finalement, quand vous discutez. Je suis en fin de carrière, c'est normal, j'ai mal partout, j'ai mal aux genoux. Voilà, on en est sur une habitude, ils en sont conscients, mais ça fait partie de la carrière. Ils ont fait une super carrière professionnelle, mais derrière, ils ont des petits bobos, quoi. C'est comme ça.
Il y a un autre phénomène un peu plus récent, qu'on peut dater à quelques années, c'est ces joueurs qui, parfois, en voulant trop bien faire, font des activités aussi en dehors du club, qui ont des répercussions sur les organismes, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la précision, avec notamment les sports scientists, toute la data qu'on peut récupérer, la précision est extrême sur le degré d'implication dans les entraînements, sur le nombre de sprints, à quelle vitesse, la distance, etc., etc. Mais il y a des joueurs qui choisissent aussi, en dehors des séances collectives imposées par le club, de prendre un préparateur physique à côté, sur son temps libre, et de faire plus de séances. Souvent, c'est vu d'ailleurs comme un truc ultra positif, c'est-à-dire « Ah ouais, vous avez vu, tel joueur, il fait en plus des séances collectives, il fait des séances individuelles deux fois par semaine, il va faire des trucs avec du sable, de la force, etc., etc., de l'endurance. » Alors qu'en fait, ça peut être très problématique, parce que quand tout est calibré... Au centimètre près, c'est problématique de rajouter des choses. Parfois, en plus, les clubs sont plus ou moins au courant. C'est plus ou moins facile de le contrôler, d'ailleurs. Est-ce que vous avez sensibilisé les joueurs de l'Estac sur cet aspect ?
Non, c'est difficile de les sensibiliser sur cet aspect, mais c'est vrai que de temps en temps, on en parle, parce qu'effectivement, pour moi, c'est un réel problème. C'est un réel problème, parce qu'effectivement, je pars du principe aussi que le repos fait partie aussi de la préparation. La phase de récupération, la phase de repos est très importante aussi. Et que si pendant cette période de repos, ils remettent une activité, effectivement, on est à flirter le surentraînement. On va avoir des indices de surentraînement qui vont s'allumer. Le joueur donc, va augmenter son risque de blessure. Parfois, on a même des blessures. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des joueurs qui reviennent après une phase de repos avec une blessure. Et on ne comprend pas parce que ça ne peut pas être avec nous qu'il se soit blessé. Donc, on se doute bien que c'est en dehors de ses activités lié au club qui s'est blessé. Donc, mais ça, ils ne vont jamais l'admettre, ça, c'est certain. C'est forcément notre faute, ça, c'est de la logique. Donc ça, c'est un petit peu problématique. On en discute un petit peu avec eux, mais sans pouvoir leur dire, non, ce que tu fais, c'est de la connerie, parce que c'est compliqué, il ne faut pas se les mettre non plus à dos. Il faut savoir que leur préparateur ou leur entraîneur personnel va forcément avoir raison et nous forcément tort. Donc si on se les met à dos, ça va être compliqué, donc il vaut mieux que ça se fasse en intelligence et qu'on essaie de comprendre ce qu'ils font pour nous, après, nous adapter quelque part. Et c'est dommage parce que c'est presque nous qui devons nous adapter et pas l'inverse. Moi, je préfère des fois quand le joueur le joue clairement en disant « voilà, je fais ça, ça m'est déjà arrivé, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de travailler avec un préparateur physique, qu'est-ce que je peux faire avec lui ?» etc. etc. Donc on lui explique que ce n'est pas forcément nécessaire, mais bon, des fois, c'est un discours dans le vide et ils veulent le faire parce que voilà, il y a la pression, j'ai un pote qui le fait, j'ai mon agent qui me dit que c'est mieux de le faire, etc.
Parce qu'il y a les bonnes raisons. Moi, je connais des joueurs qui le font pour des bonnes raisons, parce que moi, je connais un joueur, par exemple, qui m'a dit « j'en ai besoin et je me sens mieux ». Et bizarrement, moi, je le voyais sur le terrain avec beaucoup plus de consistance physique qu'avant qu'il choisisse de le faire. Donc, ça peut être des bonnes raisons. Et puis, il y a aussi le côté mauvaise raison, c'est pour la com, pour mettre sur Instagram, pour montrer que je fais du travail en plus, parce que c'est toujours bien vu, ce que je disais tout à l'heure. Quelqu'un qui travaille plus, c'est toujours mieux vu que quelqu'un qui travaille mieux.
Oui, exactement. Après, je ne dis pas qu'ils font du mauvais travail. Il y a des gens qui travaillent très, très, très bien. Attention. Et quand j'expliquais ça, comme j'expliquais justement que je pense que c'est mieux d'avoir un discours qui est franc, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être très bien faites. Il y a des choses qui sont même bien faites et on n'a pas à critiquer. Mais comme tu disais, il y a certains joueurs qui en ont peut-être ce besoin. Ça peut être fait pour de bonnes raisons. Quand c'est pour bonnes raisons, ça me pose pas trop de soucis. Le problème, c'est que voilà, souvent quand c'est masqué, quand c'est caché, là on commence un peu plus à se douter quand même.
J'ai encore deux petites questions, François. La première, j'ai lu une étude que vous avez partagée qui m'a beaucoup intéressé, même si je suis loin d'être un spécialiste, mais en tout cas ça m'a intéressé, qui remettait un peu en question l'utilisation de la glace et du froid sur certains types de blessures. En gros, la vision qui émergeait d'une étude des années 70, je crois que c'est 78 si je me rappelle bien, était un peu en train d'évoluer. En tant que fan de foot, on voit souvent les joueurs à qui on applique une poche de glace derrière la cuisse. Je prends derrière la cuisse, mais ça peut être, je sais pas, sur une cheville, sur le mollet, enfin peu importe, pour tout type de blessure. Et ça, c'est souvent montré à la télé. Et selon cette fameuse étude, le glaçage, maintenant que, ça c'est vous qui allez en témoigner, mais il y a de plus en plus d'études aussi sur le secteur médical lié au sport. Et on s'est aperçu, c'est en tout cas ce qui était raconté dans cet article, que le glaçage peut retarder des guérisons, même s'il apaise la douleur. Quel est votre regard sur cette observation et ce fameux article ?
Si je l'ai publié, c'est parce que je le partage. C'est-à-dire qu'effectivement, le froid a une activité certes antalgique, mais également anti-inflammatoire. Or, on sait que l'inflammation est un vecteur de la cicatrisation aussi. Donc, il faut savoir respecter une inflammation. Alors, j'utilise quand même du froid, je ne vais pas dire que je l'utilise jamais, parce que l'inflammation peut être parfois trop importante, trop violente. Alors, quand je sais, par exemple, qu'il va y avoir un risque de congestion important, avec un œdème important, une douleur importante, utiliser du froid à ce moment-là n'est pas déconnant. Mais c'est vrai que, par exemple, sur une lésion musculaire initiale toute simple, à être d'emblée mettre du froid, ce n'est pas forcément donner tout de suite les bons indicateurs de la cicatrisation. Donc, il ne faut pas utiliser, je pense, le froid de manière systématique et obligatoire. On revient un petit peu là-dessus. On sait que le chaud, finalement, il y a des études qui montrent également que le chaud peut avoir aussi des bénéfices, parce que le chaud a une activité pro-inflammatoire et décontracturante. Donc on peut aussi être amené à utiliser le chaud. On utilise beaucoup le chaud d'ailleurs dans les lombalgies pour obtenir une certaine décontraction, détente musculaire et finalement un apaisement, parce que si le muscle est moins contracté, il est moins douloureux aussi. Je l'ai partagé parce qu'effectivement, le froid systématique n'est pas forcément la meilleure chose. Alors, c'est vrai, quand on va sur le terrain et puis le patient, enfin le joueur a mal, on met la petite bombe de froid, ça fait rien ça, la bombe de froid, hein, c'est on glace la peau. Il hein. Faut savoir que d'ailleurs, mettre du froid, bien souvent, ça refroidit plus la peau que le muscle qui est en dessous. Hein. Donc ça, c'est plus placer beaucoup de choses, mais c'est pour montrer aussi qu'on fait quelque chose parfois. Notre intervention sur le terrain, elle a plutôt pour vocation de s'assurer que le joueur est apte à pouvoir continuer à jouer, à tenir sa place, s'enquiller également de son état, savoir s'il faudra bientôt le sortir parce qu'il commence à sentir des signes de fatigue, etc. Mais parfois, pour la petite blessure qu'il a, ben, il n'y a pas grand-chose à y faire, donc on met un petit coup de froid pour montrer qu'on fait quelque chose, et puis c'est tout, hein. Faut pas se leurrer. Mais pour revenir sur cette idée de froid systématique, non, je pense que ouais, il faut l'utiliser. On l'utilise. Je pense que ça fait partie des éléments à utiliser, mais pas forcément systématiquement. Ouais.
Je viens de penser à quelque chose. Autre sujet, les traumatismes crâniens dans le foot. On a longtemps dit, et on continue de le dire, que le foot est un peu en retard à ce niveau-là par rapport à d'autres sports, qui sont peut-être, pour le coup, plus traumatiques à ce niveau-là, d'ailleurs. Enfin, en tout cas, avec plus de contacts. On sait que la FIFA a décidé de commencer à faire certaines choses. Le sixième changement possible, notamment en cas de traumatisme, est une avancée. C'est peut-être une petite avancée, mais on va dire que c'est, en tout cas, ça va dans le bon sens. Qu'est-ce que le football doit faire pour limiter les dégâts d'un traumatisme crânien? Et surtout, on voit des joueurs parfois qui reviennent sur le terrain dans un état qui est... Moi, j'ai vu un match, c'était la semaine dernière, un joueur revient sur le terrain, il fait 10 minutes et après, il sort parce qu'il n'en peut plus, en fait. Que le traumatisme crânien qu'il a eu, c'était sur un choc, un tête contre tête sur un ballon aérien. On lui dit « Ok, retourne sur le terrain », mais en fait, il n'est pas OK, le joueur.
Non, ça peut être très dangereux parce qu'on sait qu'il y a des risques de décès hein, du sportif hein, qui retourne sur le terrain comme ça. Ouais, la commotion cérébrale, je pense, c'est un peu malheureusement trop souvent.
Oui, voilà, j'ai utilisé traumatisme crânien, mais en fait, c'est commotion cérébrale.
C'est la commotion cérébrale, ouais. Parce que quand il y a un traumatisme crânien, il faut bien penser qu'à l'intérieur, on a un cerveau qui bouge et que quand il y a un choc, il vient percuter la boîte crânienne des deux côtés. Hein. Donc, il peut y avoir des dégâts, des saignements à l'intérieur de la boîte crânienne et ça ne se voit absolument pas. Alors, le football est quand même en train d'essayer de rattraper ça. Sous l'impulsion, il y a Emmanuel Laurent, qui est le docteur Emmanuel Laurent, qui bosse à la FIDE, qui commence à changer pas mal de choses et qui s'implique beaucoup là-dedans. Aujourd'hui, on a des outils de mesure qui s'appelle le SCAT-5, par exemple, qui est un outil qu'on fait directement après un traumatisme crânien avec un questionnaire qui nous permet donc d'identifier le risque potentiel d'un souci chez notre sportif. Maintenant, tout sportif, tout footballeur qui a eu un traumatisme crânien doit être vu par un neurologue spécialisé en commotion cérébrale. C'est lui qui doit valider sa reprise. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Moi, je pense qu'il y a de... encore d'autres choses à faire. La difficulté qu'il peut y avoir, c'est que suite à un choc comme ça, une suspicion de commotion cérébrale, le médecin est décideur et il peut avoir la pression de son entraîneur, des autres joueurs, du joueur même lui-même. Ça peut être bien, par exemple, d'avoir un médecin complètement indépendant qui soit présent sur les pelouses et qui soit là pour ça. C'est-à-dire que ce soit lui qui pourrait intervenir pour les deux équipes, par exemple, et qui pourrait prendre la décision de manière tout à fait objective, en disant « moi, je prends la décision sur les éléments que j'ai, que ce joueur ne peut pas reprendre ». Et comme c'est lui qui a pris cette décision, personne n'a dit. Donc, personne n'a rien à dire. Donc, ça enlève la pression, on va dire, au médecin qui est le médecin d'équipe. Et puis, la décision, elle est telle qu'elle, point ligne, on peut pas y revenir. Je pense que ça pourrait protéger le médecin et éviter, effectivement, qu'on retrouve, des joueurs qui ont une commotion cérébrale à intégrer un terrain, parce qu'effectivement, c'est extrêmement dangereux. Ouais.
Dernière question, est-ce que vous pourriez donner une idée, parce que là, on a évoqué plein de sujets, mais de la semaine type d'un médecin d'un club de Ligue 1? Alors, pas faire jour par jour, mais les différentes missions, les actions, les réunions, lendemain d'un match, veille de match, jour de match, ce genre de choses-là.
Tous les matins, quand on arrive, il y a une petite réunion avec l'ensemble du staff médical, donc des kinés, moi-même, podologues, ostéopathes s'y sont présents, mais également du staff performance, du reste du staff performance, à savoir donc le directeur de la performance et les préparateurs physiques. Et on s'attribue un petit peu les rôles de chacun sur la journée. C'est-à-dire, on fait une revue d'effectifs sur les joueurs, qui est blessé, qui doit faire ceci, qui doit faire cela, quel kiné va prendre en charge et quel programme il va lui mettre en place. Voilà, donc on met en place un petit peu tous ces petits bobos. Après, il y a en général un petit déjeuner qui est commun avec les joueurs, parce qu'on contrôle un petit peu leur alimentation ici. Après ça, les joueurs ont un travail en salle à faire. En général, je le supervise et pendant ce temps-là, il est fréquent que des joueurs viennent me voir pour des petits trucs. Alors, soit parce qu'ils ont une petite douleur la veille, soit parce qu'ils ont ils ont mal dormi, soit parce qu'ils ont mal à la tête. Enfin, il y a plein de raisons. Ensuite, entraînement. En général, on va sur l'entraînement au cas où il se passe quelque chose. Parfois, on a du travail aussi administratif qui est assez important entre les accidents de travail, entre les déclarations qu'il faut faire à droite à gauche. On a quand même pas mal de travail administratif, mettre en place les dossiers médicaux. Donc, parfois, on n'a pas toujours le temps d'aller sur le terrain. Et dans ce cas-là, je profite de l'entraînement pour faire ce travail administratif. Quand les joueurs reviennent, s'il y a eu des petits bobos, on les prend en charge, bien entendu, parce que l'entraînement est également pourvoyeur de risques de blessures, moins qu'en match, mais ça arrive. Après, donc, il y a un travail de récupération avec les kinés, où en général, on en profite pour aller un petit peu aux informations à droite à gauche, gagner des informations par les kinés, par les joueurs eux-mêmes. Ensuite, il y a un repas également à midi, tous ensemble en équipe. L'après-midi, en général, elle est libérée. Nous, ça nous arrive de refaire des petites réunions. Alors, ça peut arriver faire le point sur certains joueurs, donc ce qu'on appelle des IDP, c'est pour vérifier si les joueurs, dans leur évolution, sont dans ce qu'on voulait faire, s'il ne faut pas travailler plus de manière spécifique, s'il y a des blessures qu'il faut prévenir, etc. On peut également se réunir, par exemple, ça nous arrive on l'a fait d'ailleurs cette semaine, de revoir des gestes d'urgence. On a fait ça avec les kinés hier ou avant-hier, je ne sais plus. On se remet des automatismes, donc comment remettre une minerve correctement, comment se mettre sur un plan rigide, comment brancarder, le rôle de chacun en cas d'intervention, que faire en cas d'un arrêt cardiaque. Si on arrive à avoir une certaine autonomie, un certain automatisme, le jour où ça arrive, ça ira beaucoup plus vite et on saura quoi faire, chacun connaît son rôle. Donc, et puis ça permet aussi de se remémorer où est-ce qu'on a rangé ceci et cela dans le sac, parce qu'on a un gros sac d'urgence, donc ça permet aussi de se remémorer, de savoir où est-ce qu'on a été mettre les choses. Donc, on s'entraîne des fois sur ça. Donc ça, c'est la semaine. Et après, jour de match, alors veille de match, ça peut arriver qu'on prenne l'avion et qu'on parte du coup avec le groupe. Alors moi, je suis avec le groupe dans tous les déplacements. C'est pas le cas dans tous les clubs, mais à Troyes, on a pris la décision que j'étais présent sur l'intégralité des matchs à domicile et à l'extérieur, ce qui est bon pour les joueurs quand même assez confortable, mais aussi pour moi, parce que quelque part je trouve que je les suis toujours et puis je sais exactement où ils en sont. Donc on parlait tout à l'heure de la prévention dopage qui fait partie aussi de notre mission. Dès qu'un joueur a quelque chose, c'est moi qui lui donne, donc ça permet, comme je suis toujours présent, ça limite le risque qu'il aille chercher en pharmacie ou que sa femme ou que sa petite copine elle lui donne un truc qu'il pourrait pas prendre. Donc, et je leur dis vraiment, si vous avez besoin, vous venez me voir et c'est moi qui donne. Voilà, il y a des médicaments des fois qui sont complètement anodins, ils pensent bien faire et puis pas de bol, il y avait de la pseudoéphédrine dedans, la pseudoéphédrine est interdite. Donc, il faut être un petit peu méfiant vis-à-vis de ça. Après, jour de match, on est présent sur le terrain, c'est au cas où. Quand il y a des blessures sur le terrain, on se rend sur le terrain. Fin de match, on commence en général les soins, on fait de la récupération, on précise bien l'importance de la réhydratation, réalimentation, pour que les joueurs récupèrent le plus vite possible. Le lendemain de match, en général, ça se passe au club, il y a une séance de récupération, où c'est justement plutôt le médical qui prend en charge les joueurs. On travaille beaucoup sur du massage, des étirements, de la mobilisation. On est vraiment sur la récupération. On parlait des soins de bien-être tout à l'heure, c'est là où on en met le plus d'ailleurs. Et puis en général, le deux jours après le match, comme ici à Troyes, on a un match par semaine puisqu'on n'est pas concerné par les coupes. Donc on a une journée de récupération le surlendemain de match. Et on repart dans notre routine dès le mercredi en général.
Ça fait des belles semaines.
Ouais, on s'ennuie pas quand même. Hein. Ouais, c'est des bonnes journées. C'est un vrai travail à temps plein quand même. Hein. Ouais, c'est.
On arrive au bout de l'entretien, François. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines ? En gros, c'est une recommandation d'invité.
Alors, c'est déjà intéressant de donner la parole à des gens de l'ombre. C'est notre cas, en tant que médecin, on est un peu travailleurs de l'ombre. Hein. On n'est pas devant les caméras, c'est les joueurs qui sont devant. Nous, on est un peu derrière, mais on a un rôle, je pense, assez important. Il y a plein comme ça de de petits gens qui bossent derrière et qui ont un rôle vachement important. Je pourrais penser à des intendants, à des community managers, je pourrais penser à plein de choses, à plein de personnes qui travaillent dans le côté sombre du club qu'on ne voit pas, mais qui ont un rôle super important. C'est l'intendant, c'est quand même celui qui va faire en sorte que les joueurs soient beaux sur le terrain, et finalement il fait vendre des maillots, parce que si les joueurs sont beaux, ben, il va vendre des maillots, donc chacun a son rôle. Les commerciaux ont leur rôle, et voilà, il y a tellement de personnes, donc je dirais toutes ces personnes-là qui n'ont pas un accès, on va dire, public, bah, c'est peut-être parfois intéressant de les entendre parler, parce qu'ils ont plein de choses à dire. Et sinon, vraiment dans le médical, bah, entendre un kiné, ça peut être intéressant, parce que j'expliquais tout à l'heure qu'ils sont quand même des confidents importants, ou un podologue, posturologue, c'est aussi intéressant. C'est le football, c'est quand même un sport des pieds, et soigner les pieds, voilà, c'est intéressant. Et si, allez, j'avais une recommandation d'un coach, j'ai un mot qui vient en tête. Sur un coach, un garçon que je trouve extraordinaire, que j'aime beaucoup, comme ça me permet aussi de le dire de vive voix, que je trouve humainement très bien, super coach, que j'ai connu à Lille au centre de formation et qui aujourd'hui est entraîné en Ligue 2, c'est Stéphane Dumont. Garçon admirable, voilà, je pense qu'il fera une belle carrière d'entraîneur parce que c'est quelqu'un à grande valeur. Voilà,
ça me fait pas mal de pistes, donc ça c'est très bien. C'est aussi un peu le but du podcast, de mettre en lumière les... Alors il y a évidemment, j'ai reçu des joueurs, des coachs, des présidents, donc ça c'est, on a un peu plus l'habitude de les voir, mais dans l'idée de faire découvrir vraiment et de mieux comprendre comment fonctionnent les clubs, comment fonctionne tout l'écosystème du foot, évidemment que toutes les petites mains, les prépas physiques, les kinés, le secteur médical, il faudrait que j'aille plus voir ce qui se passe dans les bureaux, notamment les commerciaux, le marketing, etc. Mais un club, s'il y a autant de salariés dans un club, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que le club, pour son bon fonctionnement, a besoin de tout ça, quoi.
Si les joueurs performent, c'est que derrière, il y a toute une équipe qui travaille pour eux, ouais.
Eh ben, je vais lancer beaucoup d'invitations alors. Merci beaucoup François Drouard pour votre disponibilité,
merci,
votre temps.
Merci à toi.
Et puis bonne fin de saison à l'Estac, évidemment. Et puis à très vite, avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Grand
François.
Plaisir partagé. Merci.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.